Hardigan.
Hardigan présente La porte vers l'au-delà. Charaka et tome 5. De Bradley P. Beaulieu. Traduit de l'anglais par Olivier de Bernard. Lu par Manon Jomain. Prologue. Sous le palais du soleil, il y avait une crypte qui avait appartenu au vivisectionniste royal, mais que Meriam Shan Al-Dwan, reine de deux royaumes, avait réquisitionnée après avoir constaté qu'elle convenait parfaitement à ses besoins. La rampe qui la reliait au palais permettait de faire descendre et de remonter des corps sur de larges brancards munis de roues, y compris ceux des énormes golems malassaniens dont la reine avait entrepris l'étude. L'endroit était frais et humide. On y trouvait des centaines d'instruments conçus pour trancher, découper et sectionner. Des outils très utiles pour conduire les expériences que la jeune femme menait sur les golems depuis la terrible attaque des forces malassaniennes 3 semaines plus tôt. Meriam descendait le long de la rampe en pente douce. Des braseros éclairaient le passage, et devant elle, la salle aussi large qu'un petit temple luisait comme le soleil au crépuscule. Lorsqu'elle entra, elle aperçut la grande table en marbre et son prochain sujet d'expérience. Un énorme golem dont les traits figuraient ceux de Souradi, le roi fou. Le golem inspirait un mélange de crainte et de respect, comme tous les golems malassaniens. Il était en bon état, et Meriam songea que le roi Yavuz ne s'était peut-être pas trompé en affirmant que l'examen de la créature, ou plus exactement de son cœur en cristal, leur fournirait sans doute le moyen de se débarrasser de leur plus redoutable ennemi. Car le roi Émir n'avait pas encore renoncé à s'emparer de Charakaï. Yavuz, fils de Feu Kiral, le roi des rois, se tenait de l'autre côté de la table. Il regarda Meriam approcher et se pencher sur le ventre rond du golem sans trahir le moindre signe d'impatience. Il portait un superbe calat ivoire et argent, ainsi qu'un turban en soie blanche sur lequel était épinglée une broche ornée de perles et de diamants. Sa barbe noire était taillée à la perfection et ses ongles étaient d'une propreté immaculée. Il était monté sur le trône quand on avait appris que Kiral n'avait pas survécu à la bataille de la Lance Noire comme on l'avait d'abord pensé, mais qu'il avait été assassiné par Amzakir, le terrible mage de sang. Enfin, c'était ce que Meriam avait fait croire à tout le monde, car en vérité, c'était elle qui avait tué Kiral. Amzakir n'était qu'un bouc émissaire. La mort du roi des rois faisait suite à une longue liste de changements radicaux qui avaient eu lieu au cours des dernières années. 8 des 12 rois originaux avaient été rappelés par le Seigneur de toutes choses. Azad avait été le premier, tué par le sabre d'Ayanesh, la mère de Cheda. Puis, Cheda avait assassiné Kulasan, Mezout, Onur et Bessir. Personne ne savait vraiment dans quelles circonstances Yussam était mort, mais certains indices laissaient penser qu'il avait été éliminé par un de ses supposés alliés, le roi Hissan. Soukrou était devenu trop ambitieux, et il avait été tué par la nécromancienne Anila au cours d'une étrange cérémonie destinée à rappeler le moineau, son frère, d'entre les morts. Meriam s'était débarrassée de Kiral, et il ne restait donc plus que 4 rois originaux. Hissan, Oussam-Etin, Zeheb et Kaïl, qui avaient tous fui Charakaï en plongeant leurs maisons respectives dans le chaos. Les 8 trônes vacants avaient été attribués à des fils et des filles de rois décédés, qu'on appelait les petits rois et les petites reines. Ce changement avait modifié en profondeur le paysage politique de Charakaï, consolidant le pouvoir et l'emprise de Meriam sur la cité. De l'autre côté de la table, Yavuz fit un geste en direction du golem. « Nous l'avons trouvé dans le port méridional, à moitié enterré. » Meriam ignora son expression un peu trop impatiente et examina la créature avec attention. Elle la caressa et sentit le sable qui se mêlait à l'argile qui couvrait les pièces en bronze. Plusieurs impacts et un large trou dans le ventre témoignaient de la violence de l'attaque en règle que les Malassaniens avaient lancée pour s'emparer de la cité. Mais le torse était intact, et c'était cette partie qui intéressait Meriam. « Je ne pensais pas qu'il était en si bon état », déclara-t-elle. Le visage de Yavuz se détendit sous le coup du soulagement, et il pointa le doigt vers la poitrine de la créature. « Je suis sûre que le cœur est intact. » Meriam fronça les sourcils. « Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. » La fierté de Yavuz, si manifeste,